se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
Bon réveil, bon dimanche. Nous sommes le 5 mai, RMC 7h.
RMC, la matinale week-end.
Votre journal, Victor Pourchet, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron souhaite s'impliquer dans la campagne des européennes. Son Premier ministre appelé à faire le maximum également. On décrypte avec vous la longue interview du président qui paraît ce matin. Alors que le président chinois doit lui atterrir à Paris ce soir. Première visite d'État en Europe depuis le Covid. Visite contestée en France, vous l'entendrez. Et puis la première prise de parole de la maire d'Avallon dans l'Yonne. Depuis la prison, elle est suspectée de trafic de stupéfiants.
Et puis nous sommes à 80 jours maintenant des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez hâte que ça commence ? Le 32-16 est ouvert, c'est à vous de nous dire à 7h10.
Je m'impliquerai dans les élections européennes. Le message d'Emmanuel Macron dans les colonnes de la Tribune dimanche est clair ce matin.
Mais le soutien du président de la République suffira-t-il avant le 9 juin prochain ? 15 points et demi. Voilà ce qui sépare la liste de la majorité de celle du Rassemblement National selon un sondage aujourd'hui Elab pour BFM TV. Alors le chef de l'État se jette dans la bataille, Cyprien Pezril, quitte à effacer quelque peu la tête de liste de son camp.
Emmanuel Macron ne prononce pas une seule fois le nom de sa candidate aux européennes, Valérie Ayer. Preuve que cette campagne, c'est avant tout la sienne. Pour s'y impliquer lui-même, il formule un mea culpa. « Bien sûr, j'ai fait de nombreuses erreurs depuis 2017 », reconnaît le président. Il cite entre autres ces petites phrases. « Certains mots ont pu blesser, ça ne fait pas avancer le schmilblick », admet le chef de l'État. Emmanuel Macron, pour qui le Rassemblement National très loin devant dans les sondages, et haut, je le cite, « parce qu'il ne dit rien et s'adapte à l'esprit du moment et de poursuivre », un produit marketing ou un parti nationaliste qui s'est travesti, interroge-t-il. Enfin, pour ce dernier mois de campagne, il demande à nouveau à son gouvernement et en particulier à Gabriel Attal de s'investir au maximum, pousse même Emmanuel Macron, citant meeting, déplacement sur le terrain et confrontation. Alors que, comme RMC vous le révélait en début de semaine, le Premier ministre devrait prochainement débattre avec Jordan Bardella.
Le Premier ministre appelé par le président donc à s'impliquer au maximum dans les élections européennes. Mais avant cela, il aura aujourd'hui une tâche diplomatique, celle d'accueillir ce soir à l'aéroport d'Orly Xi Jinping, le président chinois qui débute une visite d'État de 3 jours. C'est son premier déplacement en Europe depuis le Covid-19 et il provoque la colère des Ouïghours de France, ce peuple réprimé en Chine par le régime communiste. Ils manifesteront à Paris tout à l'heure. Écoutez, Dilnur Reyhan, elle est la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe.
En tant que Française, nous recevons cela comme une gifle donnée par notre président Emmanuel Macron aux Ouïghours français. Notre président a décidé de recevoir notre bourreau au lieu de le sanctionner. On le sait, il y a un génocide qui est toujours en cours. Est-ce que, en fait, Xi Jinping est plus important que tout un peuple qu'il génocide? Et il y a le sang de tout un peuple. Un peuple, est-ce que l'argent est plus important que tout un peuple, toute une civilisation?
Et objectif affiché aussi par Paris lors de cette visite de Xi Jinping, convaincre la Chine de stopper son soutien à la Russie en pleine guerre en Ukraine. Au Proche-Orient, de nouvelles négociations de paix et de trêve avec le Hamas aujourd'hui en Égypte, mais l'espoir lui s'éloigne. Le mouvement islamiste assure qu'il n'acceptera aucun accord qui ne prévoit pas la fin totale de la guerre, inacceptable pour Israël qui accuse le Hamas de bloquer ainsi toute issue positive des discussions. Ce conflit est au Proche-Orient et ses conséquences en France. 86% des Juifs français affirment craindre davantage d'être victimes d'agressions antisémites depuis le 7 octobre. C'est l'enseignement d'une étude menée par l'IFOP. Elle ajoute que plus d'un Français sur 5 estime qu'il est justifié de prendre à partie un Juif en raison de son soutien réel ou supposé au gouvernement israélien.
RMC 7h04, c'est depuis sa cellule que la maire d'Avallon prend la parole pour la première fois.
L'élu de Lyon incarcéré il y a près d'un mois quand la police avait retrouvé 70 kilos de cannabis, 1 kilo de cocaïne et des lingots d'or, le tout dans l'une de ses maisons où habitait son frère. Dans les colonnes de Lyon républicaine, Jamila Absaoui clame son innocence, Lucas Laubert.
Oui, à travers un communiqué laconique, je tenais à m'exprimer et à réaffirmer mon innocence, écrit-elle. Je remercie toutes les personnes m'ayant apporté leur soutien, en particulier les Avalonaises et Avalonais. Une prise de parole après un mois de silence, c'est elle qui le voulait, qui a demandé à ses deux avocats de pouvoir s'exprimer. La maire assure d'une part sa confiance dans le travail de la justice et son entière coopération pour que se manifeste la vérité. L'élu clame son innocence. Jamais je ne compromettrai ni ma probité, ni mon honneur. Djemila Absaoui est mise en examen pour détention de produits stupéfiants et complicité d'offres ou cessions de produits stupéfiants. Sa demande de remise en liberté a été rejetée par les juges.
Lucas Laubert pour RMC. C'est une étape de l'enquête très attendue par les proches du jeune Naël. Aujourd'hui aura lieu une reconstitution du moment lors duquel l'adolescent a été mortellement touché par la balle d'un policier pendant un contrôle routier. C'était fin juin 2023. La zone à Nanterre près de Paris est d'ores et déjà bouclée par la police. Et puis combien seront-ils à marcher contre la transphobie aujourd'hui dans la capitale? Plus de 800 collectifs et des personnalités comme les écrivaines Annie Ernaux et Vanessa Springora appellent à manifester cet après-midi dans leur viseur, notamment une proposition de loi d'élus Les Républicains qui ouvre, selon eux, la voie à un retour des thérapies de conversion.
On en parlera tout à l'heure à 8h10 avec notre invité Mini Majesté, cette drag queen désignée par la mairie de Paris pour porter la flamme olympique le 14 juillet prochain dans les rues de Paris.
Le football à présent et la Ligue 1 avec la bonne opération du Havre, vainqueur de Strasbourg 3-1. Les Havrais prennent 3 points d'avance sur le barragiste Metz, battu de son côté 3-2 par Rennes. Victoire aussi de Monaco 4-1 contre Clermont. Les Monégasques confortent leur place de dauphin du Paris Saint-Germain.
Et le PSG, dans les féminines, ont remporté la Coupe de France hier.
Un petit but à 0 contre Fleury. Avec ce titre, le club de la capitale repart de l'avant une semaine à peine après son élimination en demi-finale de Ligue des Champions. C'était contre Lyon. Du mauvais cœur donc pour Grace Gueyoro, la capitaine.
Ça fait du bien, c'est sûr. Après une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, on avait à cœur de gagner ce titre-là pour toute la saison, pour les supporters, pour le club, pour nous-mêmes. Ça fait plaisir, c'est sûr qu'on se met des objectifs avant chaque début de saison, ramener le plus de trophées possible et on se donne à fond, on travaille dur. Donc oui, c'est une récompense aujourd'hui et il faut que ça continue. En tout cas, cette saison, on l'espère aussi pour les playoffs et pourquoi pas la saison prochaine aussi.
La capitaine parisienne Grace Gueyoro. Et puis, ils sont 250 inventeurs cette année à concourir pour le prestigieux concours L'Épine de la meilleure invention, évidemment, 123e édition au beau milieu de la foire de Paris, comme toujours. Invention souvent surprenante, parfois un peu farfelue, il faut le dire, et de plus en plus écolo, Clément Brossard.
Ça, c'est pour régler le débit du coup ici.
Simon est l'inventeur de la douche cyclique.
Le principe de la douche cyclique, c'est de faire de la distinction entre l'usage d'hygiène et l'usage récréatif. On allie confort et écologie parce qu'on peut passer des heures et des heures dans la douche en consommant que 5 litres d'eau.
Quelques mètres plus loin,
approchez-vous un petit peu.
Adrien présente son vélo Pipop.
C'est le premier vélo à assistance électrique sans batterie et sans recharge.
Franck, visiteur, est séduit.
Ah bah, l'idée est bonne. Aujourd'hui, on se pose des questions sur les batteries et les conséquences des batteries. Et là, je cherche justement un vélo électrique. Et pourquoi pas? Faut voir aussi quel est le prix.
Le prix, justement,
2 690 €.
Dans l'allée d'en face, Paul, ingénieur, et son fils Auguste, étudiant en commerce international, attirent les curieux.
On a créé une solution qui permet de transformer toutes les autres surfaces naturelles en eau potable. Rivières, lacs, étangs, fleuves, mais également les eaux de pluie et les eaux souterraines. Et on est vraiment là pour aider ces 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde.
De quoi peut-être en faire un des favoris pour le 10 mai prochain, date des résultats, afin de rejoindre l'aspirateur, les lentilles de contact ou encore le stylo à billes auront des appareils primés par le concours L'Épine. Clément Brossard, alors moi j'ai mon petit favori cette année. Une voiture gonflable et portable. Alors ça tient sur un sac à dos. Vous gonflez les parties gonflables évidemment, donc ça correspond à une partie de l'habitacle. Les autres, c'est en dur, notamment les roues quand même, parce que les roues,
sinon on est mal.
C'est moyen top. Et puis il y a le petit moteur, il y a tout qui va bien.
Eh ben, dites-moi, vous avez bien étudié le dossier.
J'ai peut-être acheté, je sais pas.
Je vous laisse essayer avant.
Vous êtes allé faire un tour dans à la foire de Paris.
J'ai hâte.
C'est une voiture gonflable. J'ai hâte de voir ça. À tout à l'heure, Victor. Il est 7h08.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous l'avez entendu, le président chinois est en route pour la France. Il va atterrir ce soir. Visite d'État de 2 jours avec peut-être des contrats. La question des Ouïghours, la question de l'Ukraine. Que faut-il attendre de cette visite diplomatique? Le spécialiste de la Chine, Emmanuel Linco, est notre invité tout à l'heure à 7h40 pour tout savoir et tout comprendre.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel, et vous nous mettez à nu.
Oui, déshabillez-moi, déshabillez-vous avec les applications de Deep News. J'en parle en rigolant, mais c'est une dérive assez sérieuse de l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Eh bien, là aussi, on a hâte. À tout à l'heure, Anthony. D'abord, notre question ce matin à 80 jours des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez hâte que ça commence? C'est à vous de nous dire au 32-16 et c'est dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil, bon dimanche, RMC 7h11.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes. Tous les matins, dimanche compris, une question d'actualité qu'on décrypte avec vous, Kevin, et dont on débat avec vous au 32-16, avant l'arrivée de la flamme olympique mercredi en France à Marseille, et à bientôt 80 jours de l'événement. Avez-vous hâte que ça commence?
Oui, on vous pose cette question parce que ça y est, la flamme olympique sera sur le sol français mercredi après son périple à bord du Belém. Première étape à Marseille, donc une très bonne idée selon le président Macron, qui s'exprime dans la tribune dimanche ce matin. Des milliers de personnes seront présentes, le président aussi d'ailleurs, pour voir le nageur Florent Manaudou récupérer la flamme sur le 3 mois et la porter sur le sol français. Ça, c'était ce qu'on savait déjà. Et hier, on a appris l'identité d'autres personnalités qui feront circuler la flamme dans la cité phocéenne.
Alors, parce qu'on nous avait promis des grandes surprises. Hein.
Alors, il y a quand même du beau monde. Hein. Les humoristes Nicole Ferroni, Redouane Bougueraba ou encore le chanteur Soprano qui sera lui le dernier porteur de la flamme à Marseille sur le toit du stade Vélodrome quand même.
Hey, Kevin, ce n'est que le début d'un long périple pour la torche olympique.
Oui, pendant plus de 2 mois, elle sillonnera toute la France, brandie à chaque fois par des personnalités françaises, mais aussi des citoyens qui le méritent, engagés en faveur du sport. 11 000 Français au total porteront le flambeau olympique. Et une question demeure, Zidane, pas Zidane, on ne sait toujours pas. Et rien que ce feuilleton, moi, me tient en haleine. Qui n'a pas hâte de voir des gens se baigner dans la Seine alors que la baignade est interdite depuis plus de 100 ans? La maire de Paris, Anne Hidalgo, a encore promis qu'elle se baignerait en juin dans le fleuve. Et quoi qu'en disent les mauvaises langues, écoutez-la, elle s'est exprimée mercredi à ce sujet.
Je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que, en fait, oui, on va nager dans la Seine parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel.
Et bien sûr, dans tout ça, n'oublions pas le sport. Il y a de belles histoires à suivre, rien qu'avec le parcours de qualification des athlètes français. Un exemple, Christophe Lemaître, vous vous souvenez, spécialiste du sprint, double médaillé olympique. Il avait déjà loupé les Jeux de Tokyo il y a 4 ans. Il veut s'offrir une dernière danse à 33 ans. Il fait partie des 300 athlètes présélectionnés, mais il doit maintenant faire partie des 50 derniers pour obtenir son ticket pour Paris.
Et oui, il y a aussi la question de Kevin Mayer. Myriam, tout à l'heure au 32-16, nous disait on espère qu'il y sera. Bon, c'est vrai qu'il y a tous ces gna gna gna, comme dirait Anne Hidalgo. Tout le monde n'attend pas ces Jeux avec le même engouement, Kevin.
Oui, parce que déjà pour l'accueil de la flamme à Marseille, le cadre pittoresque pourrait être gâché par des piles de déchets. Les éboueurs sont en grève dans plusieurs secteurs de la ville phocéenne. Et les éboueurs de Paris, eux aussi, ont déposé des préavis. Ils demandent une prime de 1900 euros pendant la période olympique où ils seront plus sollicités. Il y a aussi le collectif Saccage 2024 pour qui les Jeux sont une très mauvaise nouvelle. 45 000 bénévoles travailleront gratuitement selon le collectif citoyen au nom d'une opération qui rapportera, elle, beaucoup d'argent et qui en coûtera beaucoup, surtout, dénonce le collectif, entre 9 et 11 milliards d'euros et rien pour nos retraites, écrivent-ils sur leur tract. Enfin, des élus de la France insoumise ne sont pas parmi les premiers défenseurs des Jeux en France, loin de là. C'est le cas de la députée Aurélie Trouvé qui enquête, elle, déjà pour éplucher le budget des Jeux et dénicher des potentiels conflits d'intérêts.
Alors à vous de nous dire, à bientôt 80 jours de l'événement. Avez-vous hâte que les Jeux de Paris commencent?
Eh bien, vous avez répondu massivement non à notre consultation sur Twitter à plus de 79%. Alors, dans la tribune dimanche ce matin, le président affirme ne pas être inquiet sur ce manque d'intérêt des Français. L'arrivée de la flamme va allumer les cœurs, dit-il.
Bon, bah alors on attend mercredi l'arrivée de la flamme à Marseille. On verra si ça change les choses. En attendant, il y a quand même ceux qui ont hâte d'ores et déjà. Tiens, partons en Gironde ce matin. Bonjour Boris.
Bonjour.
Bonjour RMC, bonjour auditeur.
Boris, vous avez hâte?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un événement exceptionnel. On a la chance de le faire en France. Moi, en 98, j'ai fait 12 matchs de la Coupe du Monde. Et là, je m'étais préparé pour faire un maximum de séances à Paris. J'y vais pendant 4 jours.
Qu'est-ce que vous allez voir? Quelles épreuves vous avez pu acheter? Parce que c'est vrai que c'est très cher, hein, les billets pour aller voir les épreuves.
Et compliqué pour avoir les billets en plus.
Oui, alors malheureusement pour moi, j'ai été tiré au sort en troisième partie. C'est-à-dire qu'il restait que des places un peu élevées. Je vais jeudi le 8 voir l'athlétisme. Ouais. Et la finale du 200 mètres homme.
Bah, pas mal déjà quand même.
Oui. Le vendredi, je vais voir la finale des garçons de football. Mm-hmm. Le samedi, je vais voir la finale du football féminin.
Oui.
Malheureusement, j'arrive pas à avoir des places pour la finale du basket homme le soir. Et le lendemain, je vais voir la finale du basket féminin.
Bah, c'est pas mal. Hein. Bah,
vous allez vous régaler là, Boris.
Ah ouais.
Hein.
Vous êtes bien tombé quand même.
Oui, je me suis compté, ça me coûtait un bras.
Oui, ça c'est sûr.
Des potes qui savaient que depuis des mois et des années que je voulais le faire, et mon cadeau d'anniversaire, ils ont participé financièrement à mes...
C'est génial.
Voilà.
Super, Boris. J'imagine que oui, il va falloir que la fête soit à la hauteur, là, quand même. Hein.
Exactement, mais je pense que les Français, on est bons pour ça. On n'est pas bons avant, mais des bons jours. La Coupe du Monde 88, c'était une réussite. La Coupe du Monde du rugby, c'était une réussite. Et je pense que l'engouement va arriver... crescendo.
Vous n'avez pas tort, je suis assez d'accord avec vous. Avant que ça démarre, soit on est, comme dit encore une fois Anne Hidalgo, les gnien 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 et ça va pas aller, tout est moche et c'est les travaux, soit on est un peu complètement indifférent, mais dès que ça démarre, ça y est, on y va, quoi.
Exactement, je pense que c'est ça.
Bon, alors quittez pas... Oui.
En plus, je pense que c'est bien pour la France, parce qu'on va être le centre du monde pendant quelques semaines... Ça va amener des structures pour l'avenir, ça va amener un peu d'argent frais qui va arriver du tourisme, ça va faire du bien aux finances françaises. Et voilà, il faut que ça soit une réussite.
Et puis pendant ce temps-là, on essaiera aussi d'oublier tous les soucis, Boris. Quittez pas parce Exactement. Que sur ceux qui sont encore pas trop dedans, Emmanuel est avec nous depuis les Côtes d'Armor. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Hey, bonjour la team, ça va?
Bah écoutez, ça va. Ouais, nickel, vous aussi?
Vous aussi apparemment.
Ah nous, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour une journée de 12 heures, il n'y a pas le choix. Il faut bosser dur.
12 heures le dimanche, Emmanuel?
Ah ouais, même jusqu'à 15 quand il faut aller... si on fait du retour, du départ au retour à la maison, il n'y a plus de 15 heures. Ouais.
Infirmier libéral, hein?
C'est ça.
Eh ben, on les salue tous à travers vous, Emmanuel. Ouais. Bon, indifférent pour le moment, Emmanuel, à ces jeux?
Bah, de toute façon, je vais devoir travailler, donc je vais vous dire, l'engouement, il va être à vous suivre les épreuves à la radio, comme je disais à Marilyn hier, c'est par la radio que je vais vivre les jeux,
ah bah,
de temps
là,
à autre à la télé.
Vous êtes au bon endroit hein, sur RMC pour suivre les jeux et avoir toutes les émotions, c'est RMC qu'il faut écouter cet été. Hein.
Ouais, ah oui, ça va être bien, ça va être sympa, et puis c'est surtout, moi j'ai la chance, c'est mon épouse a travaillé toute l'année en tant que directrice d'école sur les JO, et puis ils ont été invités aux Jeux Paralympiques le 2 septembre.
Ah, mais ça, génial. C'est sympa, ça.
Ouais, donc toute l'école part aux JO de Paralympiques le 2 septembre, donc ça va être une sacrée fête pour eux.
Donc indifférent, mais vous, ça vous touche quand même, malgré tout, parce que vous dites que vous allez suivre, vous êtes content que votre femme y participe.
Oui, après, moi, je suis content, mais je veux dire, ça va pas bousculer ma vie, quoi. Ça,
oui.
Ça, voilà, on va être heureux. Si des Français gagnent, prennent des médailles, on va supporter tout le monde pour arriver au mieux. Après, moi, j'attends les JO 2028 parce que j'ai un copain qui est pompier à Los Angeles et pour son départ en retraite, il a invité un petit comité pour participer aux JO à Los Angeles.
Ah, ça va être sympa.
Ça va être plus exotique.
Oui, c'est tu m'étonnes, c'est le cas de le dire, Emmanuel. Bon, je lisais un peu en vous écoutant, Emmanuel, les messages qu'on reçoit aussi en direct sur l'appli RMC. Aurélien a hâte que les jeux commencent. Il a même écrit une chanson pour ça. Il y a ceux qui sont plus inquiets comme Dylan. Tout ça va être un bazar sans nom. Stéphane, lui, est plutôt dans le camp de ceux qui sont impatients. J'ai la chance d'avoir la flamme qui passe le 19 juillet juste à côté de chez moi. J'irai voir ça. Bon, bah écoutez... Continuez de nous dire dans quel camp vous êtes, plutôt impatient, plutôt indifférent, plutôt inquiet. Le 32-16 est ouvert. Bonne journée, bon courage pour le boulot, Emmanuel.
Ouais, merci, bon courage, bisous la team, à bientôt.
Salut Emmanuel, salut Boris.
Au revoir, bonne journée à tous.
Merci d'avoir été avec nous, régalez-vous cet été, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein.
Avec grand plaisir.
Salut Boris.
Bon,
bon dimanche, vous êtes sur RMC, il est 7h20.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h21.
RMC.
c'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Et alors là, attention. Hein. Bonjour Anthony.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Hier, vous lisiez dans nos pensées, aujourd'hui, vous nous déshabillez.
Bah, tout bien, tout honneur.
Carrément, de plus en plus d'applications permettent de déshabiller n'importe qui virtuellement.
Oui, alors pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous donner leur nom, mais enfin, elles se trouvent de toute façon assez facilement. Elles pullulent, elles explosent en popularité, à tel point d'ailleurs qu'Apple a décidé de faire le ménage, de supprimer certaines de ces applications dites de deep news, autrement dit de déshabillage par l'intelligence artificielle. Le principe est à peu près le même à chaque fois. Vous prenez n'importe quelle photo d'une personne habillé, et l'application va gommer les vêtements. L'algorithme qui a été entraîné sur des milliers de silhouettes est capable de deviner ce qui se cache en dessous. J'ai testé un petit peu, par pure conscience professionnelle,
oui,
évidemment.
Bien sûr.
Les résultats sont quand même assez bluffants.
Non, c'est vrai.
Ah ouais, il y a une vraie.
Ça ressemble à votre corps.
Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a une vraie continuité entre les traits de la personne réelle et ceux qui sont généré par l'algorithme. Alors si c'est votre propre corps, vous vous rendez compte de la supercherie parce que vous vous connaissez évidemment, mais sur le corps de quelqu'un d'autre, franchement, ça le fait quand même plutôt pas mal. La technologie en soi n'est pas nouvelle, on a depuis longtemps des faux nus de personnalités, de stars du cinéma. La différence, c'est qu'avant, il fallait des logiciels coûteux et compliqués. Aujourd'hui, c'est gratuit ou presque et ça se fait en trois clics sur un ordinateur ou sur un smartphone, ce qui fait un peu peur quand même.
Et oui, ce qui fait d'autant plus peur que c'est d'une ampleur exceptionnelle ce phénomène.
Oui, alors il y a même eu des études sur ce sujet, un cabinet d'analyse qui s'appelle Graphica estime que sur le seul mois de septembre l'année dernière, 24 millions de personnes dans le monde ont utilisé un site ou une application de deep nude et les conséquences peuvent être dramatiques parce que ces images sont massivement diffusées sur les réseaux sociaux, souvent pour nuire. En gros, on va prendre des images, alors ça peut être des célébrités, mais aujourd'hui ça peut être monsieur et madame tout le monde, et puis ensuite on va vous faire chanter en disant si tu veux pas que je diffuse massivement.
Un peu comme le revenge porn, alors même qu'on n'a pas pris les photos, quoi.
C'est exactement ça, on parle de deep fake porn, c'est exactement le même principe, sauf que là j'allais dire c'est encore pire puisque c'est à partir de photos de vous qui n'existent même pas, mais on vous menace quand même de les diffuser. Et évidemment, vous n'avez pas tellement envie qu'elles partent n'importe où, quoi.
Alors, attendez, rassurez-moi, Anthony, hein, tout ça est interdit, non ?
Oui, c'est interdit. Ces applications sont officiellement interdites.
Et c'est sanctionné.
Alors, c'est sanctionné aussi. D'ailleurs, la diffusion de ce genre d'image est considérée comme du cyberharcèlement. C'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En tout cas, en théorie, hein, le fait de publier ce genre de montage. Alors, les boutiques d'applications commencent à les supprimer, mais c'est compliqué parce que il y a des publicités qui sont faites pour ces applications, notamment sur les réseaux sociaux, qui redirigent vers les boutiques d'applications. Et souvent, elles sont assez discrètes. C'est-à-dire qu'elles se présentent comme des générations acteur artistique, c'est pas forcément écrit dessus que vous pouvez mettre tout le monde tout nu, quoi.
Merci Anthony, encore et heureusement, vous nous faites peur, c'est déjà demain, retrouvé en podcast sur l'appli RMC.
7h24.
RMC, la matinale week-end.
Serroussi n'a pas tout compris.
Ah, c'est l'heure que vous adorez sur RMC, c'est le meilleur de la semaine de Vincent Serroussi.
Qui n'a pas compris pourquoi la France compte de plus en plus de radars.
Moi je connais bien les radars, hein. J'entretiens une correspondance avec la République française depuis des années, je reçois des lettres d'une certaine Antaï qui me demande 135 euros toutes les semaines. Non, moi j'en peux plus des radars, Estelle, et encore, moi j'habite à Paris, c'est pire, hein. La vitesse réglementaire c'est 30 km/h, même les piétons ils se font flasher, c'est un cauchemar cette ville.
Enfin, c'est quand même important de respecter les limites de vitesse.
Bien sûr, bien sûr, d'ailleurs surtout pour les jeunes, car comme l'a dit Loumir,
Il faudrait mettre la trique à tout le monde.
Mais oui,
bien sûr, c'était trop beau.
J'étais obligé de
le
dire.
Bien
mettons
sûr.
La trique, faisons attention. Non, bon après il y a quand même un truc positif avec les vitesses réglementaires, c'est que tu dis tiens, au moins il y a un truc qui a pas augmenté cette année. Voilà, ça c'est pas mal. Mais sinon, c'est un enfer. On se fait fliquer de partout. Moi, j'en peux plus des radars. Alors, je le dis, avis aux gens du voyage.
Pourquoi ?
Un radar contient 2 kilos de cuivre. Servez-vous. Servez-vous. Votre cote de popularité va monter en flèche. Non, mais voilà, il y a des trucs à prendre, quoi. Surtout que les radars, est-ce que ça sert à quelque chose ? Les gens continuent de rouler vite, ça n'a aucun intérêt. Vous voulez que les gens roulent plus lentement, mais remplacez les radars par des stripteaseuses. Vous verrez, tous les mecs vont ralentir, là, d'un coup. Ah, c'est bizarre, ça va même créer des bouchons. C'est bon, les radars.
Vincent Serroussi, vous retrouvez tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi sur RMC pour rire de l'actualité. Vous remarquez, hein, il ose tout, Vincent Serroussi. Je continue à lire vos messages sur notre débat du jour, les JO. Y a par exemple Jean-Marc, le Niçois, qui nous dit ce serait bien qu'on donne la parole aux opposants. On n'en veut pas de vos jeux. Venez nous expliquer pourquoi, Jean-Marc. Le 32-16 est ouvert, bien évidemment. Marie nous dit heureusement que c'est au mois de juillet tout ça. Hein. Je plains les Parisiens et je pense qu'on va voir beaucoup de monde sur nos côtes françaises cet été.
C'est possible.
Peut-être que vous avez décidé de déserter la capitale à l'occasion de ces Jeux. Là aussi, nous vous attendons. Je vous rappelle qu'en parlant des Jeux Olympiques, la flamme olympique arrive donc mercredi à Marseille.
Marseille. On va avoir tout le programme avec Nicolas Poincaré à 7h50. Et puis à 8h10, l'une des porteuses de la flamme, la drag queen Mini Majesté, sera notre témoin RMC ce matin. Elle réagira notamment au tombereau d'insultes qu'elle reçoit depuis qu'elle a été désignée par la mairie de Paris. À tout de suite. Peggy, encore un petit peu de pluie aujourd'hui.
Oui, et on a alors juste quelques averses, c'est vrai, ce matin sur la façade ouest, sur l'extrême nord-est du pays. Ailleurs, c'est bien gris sur toute la moitié nord et puis dans la moitié sud, un temps sec avec quelques éclaircies, parfois belles. Et en revanche, si vous êtes sur le littoral du Languedoc-Roussillon, là, ça va rester gris toute la journée. Mais on a des averses orageuses qui vont arriver. Nouvelle perturbation qui arrive par les pays de la Loire cet après-midi, qui donnera de bonnes pluies localement orageuses. Et on attend des orages également entre le sud-ouest en remontant vers le Massif central et en allant vers la Bourgogne. Des orages qui donneront pas mal de pluie et surtout des chutes de grêle. Donc prudence. Ailleurs, c'est un temps plutôt gris, souvent nuageux avec quelques gouttes ici ou là vers le nord de la Bretagne, vers les frontières du nord. Et puis quelques averses orageuses possibles dans la journée sur le relief des Alpes. Tout ça sous des températures qui sont douces. Ce matin, on est souvent 3 à 4 degrés au-dessus des normales, comprises entre 8 et 13 degrés. Cet après-midi, 15 à Brest, 16 à Nantes, 18 à Lille et La Rochelle, 19 à Paris, 20 à Nancy, 21 à Nîmes, 22 à Bordeaux et Marseille. Et 24 degrés pour Montauban.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Bienvenue, nous sommes dimanche 5 mai 2024.
Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un an après la mort de Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer, une reconstitution a lieu ce matin à Nanterre. L'inquiétante montée de l'antisémitisme dans le pays depuis l'attaque du 7 octobre. Et puis Monaco conforte sa deuxième place grâce à sa victoire 4-1 contre Clermont.
Près d'un an après la mort de Naël, tué par un tir policier à Nanterre le 27 juin 2023, la justice organise ce matin une reconstitution avec les principaux protagonistes du dossier.
Oui, et l'objectif, c'est de revivre les minutes qui ont précédé et suivi le tir mortel pour tenter de faire émerger la vérité, Julie Brault.
Oui, c'est sous l'œil attentif des enquêteurs que les deux policiers, mais aussi des témoins de la scène, vont devoir rejouer leurs gestes dans les moindres détails. Le but, les confronter à leur déclaration et déterminer si le policier était en danger au moment du tir, car à ce stade, plusieurs questions restent en suspens. Aurait-il pu reculer pour éviter le véhicule ou était-il, comme il l'affirme, bloqué entre la voiture de Naël et un muret ? Ces moindres gestes vont alors être confrontés à la réalité du terrain. Une voiture similaire à la Mercedes jaune conduite par l'adolescent décédé va notamment être mobilisée. Sur place, le site sera totalement bouclé. Les deux policiers porteront des gilets pare-balles et des casques de moto. L'auteur du tir mortel, lui, portera aussi une cagoule pour ne pas être reconnu. Mis en examen pour homicide involontaire, il a déjà reçu de nombreuses menaces de mort.
Hier, une marche blanche pour rendre hommage à Mathis, ce jeune de 15 ans tué la semaine dernière à Châteauroux, était organisée. 8000 personnes y ont participé. Les obsèques auront lieu mardi avec une cérémonie un petit peu spéciale dans un stade de foot, sport que l'adolescent adorait. Écoutez ce qu'en disent ses amis, déterminés à lui rendre le plus bel hommage possible. Ils se sont confiés à Ameline Lafchin.
On aura chacun un ballon, on devra jongler, on joue avec la balle pour représenter qu'il aimait le foot et la voiture avec le cercueil dedans va passer au milieu. Et voilà, je pense que c'est un bel honneur et un bel hommage. On va tout donner pour lui, on va vraiment tout faire pour qu'il ait sa justice, pour
vue et respect honoré. On est là pour soutenir la famille et on accompagne la famille dans le deuil.
Voilà, faut pas les laisser tomber.
RMC, il est 7h32. L'actualité ce matin, c'est aussi Emmanuel Macron qui s'exprime dans la presse.
Oui, grand entretien accordé à nos confrères de La Provence et de La Tribune dimanche, alors que le président s'apprête à fêter ses 7 ans à l'Élysée. Il concède avoir fait des erreurs et affiche la volonté de réformer jusqu'à la fin de son mandat. Annonce qu'il va s'impliquer dans la campagne des européennes. Tacle le Rassemblement National, qui est en tête des sondages. Parti qui est haut parce qu'il ne gouverne pas et qu'il ne dit rien. Voilà ce que dit ce matin le chef de l'État, qui condamne aussi avec la plus grande fermeté les blocages dans les universités pour Gaza. Je suis pour qu'il y ait des débats, mais intimer l'ordre à un établissement d'avoir telle ou telle politique par la force et le blocage, empêcher d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République, dit le président.
Des propos tenus alors que le Parisien aujourd'hui en France publie ce matin une enquête qui montre la montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre.
Oui, une enquête de l'IFOP dans laquelle on voit clairement que l'antisémitisme se banalise. Nos notamment chez les jeunes, Clément Brossard.
Oui, c'est chez les moins de 25 ans que l'antisémitisme est le plus fort. Pour 35% d'entre eux, il est justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien réel ou supposé à Israël. C'est 21% pour la population générale. Mais au-delà de cautionner, ces actes antisémites sont de plus en plus nombreux en France. 7 juifs sur 10 déclarent avoir subi dans leur vie des moqueries ou des propos vexants. C'est plus qu'en 2022 et 2019, année des dernières enquêtes IFOP, et c'est surtout le début d'un engrenage, selon Jérémy Haddad, membre du bureau exécutif du CRIF.
Évidemment, bon, une moquerie, c'est le début et on s'en remet. Le problème, c'est quand petit à petit, ça s'envenime, ça se traduit ensuite par des violences d'abord langagières et puis ensuite par des violences physiques et puis ensuite par des meurtres. Et puis on a bien vu que ces dernières années, il y a eu des juifs morts en France parce qu'ils étaient juifs. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter.
De quoi encore plus renforcer le sentiment d'insécurité des juifs de France, la plus grande communauté en Europe.
Quelques semaines avant l'examen au Sénat d'une proposition de loi qui vise à interdire toute transition médicale aux mineurs. Ces manifestations prévues aujourd'hui dans de nombreuses villes du pays. Bayonne, Besançon, Saint-Etienne, Dijon ou encore Paris contre la transphobie. Plus de 800 collectifs et personnalités politiques, artistiques, militantes et intellectuelles appellent à manifester pour dénoncer l'offensive en cours, selon eux, contre les droits des personnes trans et pour défendre le droit à disposer librement de son corps. Caroline Philippe.
Pour la première fois, Sandrine manifestera pour défendre les droits de son fils, âgé de 17 ans, transgenre et victime de discrimination.
Il est le trans du quartier, le trans de la ville. Donc il y a les regards, les insultes, l'insécurité.
Mais si elle défilera cet après-midi, c'est surtout pour dénoncer une proposition de loi qui vise à interdire aux mineurs toute possibilité de transition médicale. Son fils a entamé la sienne il y a 10 mois, avec l'accord des médecins.
Et là maintenant qu'il trouve un équilibre, qu'il s'épanouit et qu'il avance, il a peur qu'on l'oblige à arrêter son hormonothérapie, qu'il ne puisse pas faire sa chirurgie réparatrice. C'est pas entendable que mon enfant pense qu'il n'a pas d'avenir.
Une offensive contre les personnes transgenres, selon de nombreux collectifs. Anaïs Perrin-Prével, directrice de l'association Outrance.
En tant que personne trans, on subit cet état d'esprit général que l'on peut avoir de transphobie dans la société, qui avant était inscrit dans une ignorance et qui se transforme aujourd'hui en haine directe avec des agressions physiques qui se multiplient ces derniers temps.
Elle promet déjà d'autres manifestations avant la discussion de la proposition de loi au Sénat le 28 mai prochain.
7h36 sur RMC, le foot et Monaco qui sera bien en Ligue des Champions la saison prochaine.
Grâce à sa victoire 4-1 contre Clermont, le club de la Principauté est désormais assuré de finir au moins dans le top 4. Ça fait 6 ans que la qualif en Ligue des Champions échappe à Monaco qui disputera à minima un tour préliminaire. Maxime Tillette.
Oui, mais Brel Embolo et ses coéquipiers monégasques ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin.
Non, c'est pas encore fini. J'ai vu qu'on est sûr d'être quatrième, mais comme j'ai dit, on est deuxième. On veut garder cette place. On a tout pour. On a ça dans les jambes et on a ça devant nous. À nous de finir le travail et de finir la saison de la très très bonne manière.
La quatrième place est synonyme de tour préliminaire et de barrage cet été pour assurer une place en Ligue des Champions. Une sorte de cadeau empoisonné que l'entraîneur Adi Hütter veut lui aussi s'éviter.
Nous avons deux matchs importants. Un à Montpellier et un match à domicile contre Nantes. Et nous voulons terminer cette saison à la deuxième place. Personne ne nous fera de cadeau. Lille et Brest veulent aussi finir la saison à la deuxième place. Nous devons continuer notre travail. Je suis totalement convaincu que nous pourrons atteindre nos objectifs.
Monaco touche du doigt son objectif initial, rejouer la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2018.
La 32e journée de Ligue 1, marquée aussi par le nul, 0 partout entre Brest et Nantes. La 3e place des Brestois reste sous la menace de Lille qui affronte Lyon. Demain soir, bonne opération dans le bas du tableau pour le Havre, vainqueur de Strasbourg 3-1. Les Havrais prennent 3 points d'avance sur le barragiste Metz, battu par Rennes 3-2. Pas de match ce 5 mai, je le rappelle, en hommage aux victimes du drame de Furiani. La 32e journée reprendra demain avec Lille-Lyon à 21h. Et puis, une info people. Allez, pour terminer, une fois n'est pas coutume, le chanteur Renaud et sa compagne Cerise, dont on avait parlé, oui, ici c'est même, vrai, se sont mariés hier à Paris, dans le 14e arrondissement. Voilà, pour la bonne nouvelle, 71 ans. Hein. Ils se marient à 71 ans.
Il n'y a pas d'âge pour l'amour.
Exactement, sous le regard de quelques personnalités, évidemment, il y avait notamment Vianney, Philippe Lelouch ou encore Dave, on en parlait, tiens.
qui fêtait ses 80 ans hier, Dave, qui est donc allé au mariage de Renaud le jour de son anniversaire.
C'est pas mal.
C'est ça l'amitié. Je pense que vous faites un heureux ce matin. C'est Eric qui nous a écrit très tôt sur l'appli RMC pour nous dire, est-ce que vous avez des nouvelles de ce mariage entre Renaud et sa compagne Cerise? Est-ce qu'il a réussi à dire oui, comme il dit plus rien sur scène, Eric? Et voilà, il y en a pour tout le monde. Un petit coup de Mistral gagnant, ça fait du bien.
Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer.
Bon, c'est pas le truc qui vous met le plus en jambes pour vous réveiller un dimanche, je vous l'accorde.
Il y en a un réveillant douceur. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu choisir une autre chanson, mais c'est vrai que c'est la plus belle, non? Enfin, je sais pas.
Ah, bah voilà.
Allez, le débat est lancé.
En fait,
7h39.
Parce que j'allais juste dire, essayez de l'apprendre à la guitare ou au piano, vous emballerez.
Ah bon? Ah bah, vous avez tenté.
Vous avez tenté. Voilà,
parce que vous êtes un grand pianiste.
Au 32-16.
Ah ouais.
Et voilà.
À la guitare ou au piano, vous avez tenté?
Les deux, ma bonne dame.
Mais non. Et ça a marché, je sais. C'était à l'époque pour draguer quand il était encore célibataire. Allez, viens, je te fais un petit coup de Mistral gagnant.
Ça, c'était avant.
Je n'ai qu'une seule chose à dire. Merci, Renaud. Il est 7h39.
À suivre dans la matinale week-end.
Tiens, elle portera la flamme olympique le 14 juillet prochain et elle est déjà la cible d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux. La drag queen Mini Majesté et notre témoin RMC ne manquaient pas le rendez-vous tout à l'heure. 8h10, nous sommes à 80 jours des Jeux Olympiques.
Et les Jeux qui se rapprochent, donc on en parle aussi avec Nicolas Poincaré à 7h50, direction Marseille.
Marseille, où la flamme arrivera mercredi et traversera toute la ville jeudi.
D'abord, Xi Jinping, le président chinois qui est en visite d'État en France, il arrive ce soir pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques avec Paris. Que faut-il en attendre? Savoir et comprendre ce matin avec le sinologue Emmanuel Linco. Notre invité dans deux minutes, restez bien sur RMC.
RMC, 6h30-9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil avec RMC, 7h41.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, sinologue, chercheur associé à l'IRIS et auteur du très grand jeu Pékin face à l'Asie centrale aux éditions du CERF.
Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est vous qu'il fallait entendre ce matin pour savoir et pour comprendre tout ce qui va se passer pendant les deux prochains jours. Le président chinois Xi Jinping arrive en France ce soir. Visite officielle donc demain et mardi. 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous sommes un an après le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. Xi Jinping, c'est la deuxième fois qu'il fait un déplacement en France depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. C'est la première fois aussi depuis la pandémie de Covid-19. Je dis tout ça, Emmanuel Linco, parce que sa présence sur le sol français non seulement est rare, mais en plus est contestée.
Oui, en effet, elle est contestée puisqu'on a appris notamment que le 30 avril dernier, Emmanuel Macron avait rencontré un officiel tibétain du gouvernement tibétain en exil, à l'Élysée même, et que d'une manière générale, évidemment, on sait bien que les droits humains ne seront guère respectés en Chine. Donc contestation, bien sûr, et en même temps enjeu tout à fait considérable. Vous avez évoqué l'anniversaire, mais il y a aussi des enjeux stratégiques, et notamment les grands dossiers internationaux, que sont notamment la guerre en Ukraine, mais aussi le conflit israélo-palestinien.
On va y revenir point par point, mais vous confirmez bien qu'il ne s'agit pas seulement de fêter ce 60e anniversaire. Sur la question des droits de l'homme, on entendait le témoignage et même le cri du cœur ce matin de Dilnur Reyhan sur RMC. C'est la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe qui a remis à Emmanuel Macron une pétition pour lui demander de ne pas recevoir le président Xi Jinping, responsable selon elle d'une répression de son peuple en Chine. En tant que Française, nous recevons ça comme une gifle, Emmanuel Linco. Les Ouïghours en Chine sont victimes d'un génocide, dit-elle.
Oui, en tout cas, c'est le terme qui a été utilisé juridiquement par le Parlement français. Donc, on peut parler de génocide, puisqu'il y a interdiction pour la minorité ouïghour, minorité musulmane turcophone du nord-ouest du pays, de parler une autre langue que le chinois mandarin. Il y a une série de documents démontrant qu'il y a une stérilisation forcée des femmes dans des camps de rééducation qui ont été ouverts dans cette province du Xinjiang et qui enfermerait près d'un million de Ouïghours sur 12 millions de Ouïghours que compte la province du Xinjiang. Donc tout cela est tout à fait avéré, mais nous sommes dans je dirais la posture diplomatique par ailleurs et l'enjeu diplomatique.
Presque démuni, Emmanuel Linco. On a l'impression qu'Emmanuel Macron ne peut pas grand-chose, même s'il en parle.
Oui, c'est évident. Que pèsent 12 millions de Ouïghours par rapport aux millions, voire aux milliards d'enjeux économiques que pèse la Chine ? Évidemment, pas grand-chose. Et je ferai remarquer, d'ailleurs, c'est là tout le grand paradoxe, qu'aucun État musulman ne condamne les répressions menées contre la minorité musulmane Ouïghour, précisément.
Et d'autant qu'il y a un autre dossier où les intérêts de la France sont plus directement liés, c'est celui de l'Ukraine. Emmanuel Macron va-t-il réussir à convaincre Xi Jinping de stopper son soutien à la Russie, qui est donc en guerre avec l'Ukraine ?
À mon avis, non. Pour une simple raison, c'est que Xi Jinping et Vladimir Poutine sont du même bois, comme on dit. Ce sont deux hommes qui ont été forgés par une idéologie à la fois communiste et nationaliste. Et je ne vois pas comment ni pourquoi Xi Jinping renoncerait évidemment à son soutien. D'ailleurs, signe des temps, par rapport au timing même du déplacement de Xi Jinping en Europe, celui-ci donc se rend en France, mais il finira sa tournée européenne en Serbie et en Hongrie, pays évidemment proches et de Moscou et de Pékin, avant de recevoir à la mi-mai à Pékin même Vladimir Poutine.
Quel est l'intérêt de la Chine et de Xi Jinping à ce que ce conflit avec l'Ukraine perdure ?
Retenir les Américains sur le flanc ouest, ça me paraît absolument essentiel pour continuer à intimider Taïwan.
Détourner l'attention des Américains qui ne soient pas trop concentrés sur Taïwan.
Absolument, et affaiblir par ailleurs et paradoxalement le partenaire russe. Parce qu'à un moment donné, et ce moment ne saurait tarder, je pense, la Chine présentera la facture à la Russie. C'est-à-dire que on voit bien que la Russie tombe de plus en plus en vassalité par rapport à la Chine.
C'est aussi pour cela qu'Emmanuel Macron, dans une interview ce matin à la Tribune Dimanche, dit que nous avons besoin des Chinois, que ce soit sur la question du climat ou sur la question de la sécurité. La défense chinoise est importante pour la France ?
La défense de la Chine, vous voulez dire par rapport à ce sujet ?
Oui.
Oui, tout à fait. Tout simplement parce que la Chine est l'un des premiers pollueurs de la planète. Donc, hélas, c'est un partenaire de ce point de vue-là absolument incontournable. Donc, évidemment, il faut tenir compte de ce paramètre. Par ailleurs, la Chine est force de proposition dans le domaine de la lutte contre la pollution. Donc, il y a aussi des solutions dans le domaine de la décarbonation de l'économie mise en œuvre par l'économie chinoise. Et puis, il est vrai que par rapport à la question du terrorisme, même si la Chine fait preuve parfois d'une certaine ambivalence en Asie centrale à ce sujet, la Chine est directement concernée aussi par le terrorisme. Donc, il y a lieu, effectivement, de coopérer dans certains domaines précis.
Sur le terrain de l'économie, fini les gros contrats signés notamment dans l'aéronautique. Ça n'est pas prévu à l'occasion de cette visite d'État. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense que le voyage va porter essentiellement sur des débats stratégiques avant tout. Bon, je ne serais pas surpris malgré tout qu'il y ait une continuité dans la signature de contrats à venir par rapport à Airbus tout de même. Et puis, ne pas oublier qu'il y a énormément d'autres secteurs d'activité qui sont sous-exploités côté français par rapport au marché chinois. Je pense tout particulièrement à l'agroalimentaire qui mériterait d'être davantage poussé, pourvu évidemment que le marché chinois soit beaucoup moins protectionniste qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est sans doute cela qu'Emmanuel Macron abordera aussi auprès de son invité chinois.
Avec un cadre sur mesure, les Invalides, un dîner d'État à l'Élysée. Et puis n'oublions pas mardi, les Pyrénées, le col du Tourmalet, dans les lieux d'enfance d'Emmanuel Macron, sans doute pour afficher aussi une certaine proximité avec ce président chinois Xi Jinping. Merci beaucoup Emmanuel Linco. Savoir et comprendre avec vous ce matin, professeur à l'Institut catholique de Paris, auteur du très grand jeu Pékin face à l'Asie centrale. C'est aux éditions du Cerf. Il est 8h10.
Direction le Val d'Oise, chez Stéphane qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Les Jeux Olympiques, on en parle depuis ce matin, c'est dans 80 jours maintenant. La flamme va bientôt arriver à Marseille. Nicolas Poincaré va nous rejoindre dans quelques secondes. Vous avez hâte, vous, ou pas ?
Oui, bien sûr.
Pourquoi ?
Bien sûr, parce que j'adore le sport. Ouais. Et c'est une fête quand même de sport mondial. Après tous les débats, tous les thèmes de débat qu'on a, bon, bah, après on oubliera dans 80 jours.
Vous croyez que les râleurs
vont arrêter de râler
vont arrêter de râler en France?
Bah, gna, comme elle dit, après on verra.
C'est pas moi qui le dis, c'est Anne Hidalgo. Hein, les gna.
Ouais. Après, bien sûr, moi, en plus, j'ai la chance que la flamme passe le 19 juillet à Mairie-sur-Oise, au Vert-sur-Oise. Ouais. Donc, bien sûr qu'on va aller voir ça. Bien sûr que ça va voir quand même. On perd qu'une fois dans sa vie.
Donc, bah, bien sûr.
Bah bien sûr, et c'est quand même une belle fête du sport quand même. On va avoir des grandes compétitions. Quoi.
Vous avez un sport de prédilection ?
Moi, j'aime tous les sports. Moi.
Ah bah comme ça, vous allez.
Moi, j'adore tous les sports. C'est un petit peu dingue, mais voilà, j'ai pas de problème. Je suis capable de regarder n'importe quoi. Non, n'importe quel sport. Voilà.
Vous êtes en furie devant le curling, devant.
Non, mais attendez. Bon, alors là, avec le curling, les Jeux Olympiques.
Bah, bien sûr. Mais non, mais quand vous dites tous les sports, je sais pas pourquoi, je vous imagine en folie devant. oui, même le curling alors.
Ouais, il faut vraiment être dans un contexte mental particulier. Oui, mais
non, mais là, vous allez découvrir,
par exemple. C'est un jeu de poule sur place.
Hein. Vous n'avez pas tort. Là, vous allez découvrir le breaking cette année pour la première fois.
Oui, voilà, ouais, on va voir ça. Il est jeune et ils sont très, très souples.
Bon, filmez-vous, Stéphane, pendant que vous regardez le breaking. Vous nous envoyez la vidéo et on va voir si vous aimez vraiment tous les sports.
Je viendrai vous voir complètement.
Avec grand plaisir. Merci du petit coup de fil dimanche matin, Stéphane. C'est toujours un bonheur de vous entendre. Faites comme Stéphane, rejoignez-nous au 32-16. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Allez, restons sur notre lancée, les Jeux Olympiques, avec Snoop Dogg qui, pour les Jeux, essaye d'apprendre à parler français. C'est assez savoureux. On va voir ça dans le bonus RMC dans 2 minutes.
Mais d'abord,
racontez-nous.
Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Cette semaine sera marseillaise ou ne sera pas. La flamme olympique arrive mercredi prochain à Marseille.
Oui, et elle arrive par la mer. C'est par la mer qu'elle rentrera dans Marseille à bord du Belém qui est allé la chercher en Grèce. Le Belém, c'est ce fameux trois-mâts. ICO, lancé en 1896, l'année des premiers Jeux Olympiques modernes. Il va d'abord participer à une parade dans la rade de Marseille. Il sera entouré d'un millier de bateaux qui l'accompagneront jusqu'à son entrée dans le Vieux-Port. Environ 150 000 spectateurs seront massés sur les quais. L'orchestre de l'Opéra de Marseille assurera la bande-son. Le bateau accostera sur un quai provisoire qui a été construit à 100 mètres au large et qui est relié à la terre ferme par une piste d'athlétisme flottante, donc de 100 mètres de long. C'est le nageur Florent Manoudou qui parcourra ses 100 mètres. Le champion olympique en 2012 à Londres sera donc le premier porteur de la flamme en France. Sa sœur, Laure Manoudou, avait déjà été la première porteuse française en Grèce.
Et le lendemain jeudi, la flamme va traverser tout Marseille.
Oui, et c'est une extraordinaire publicité dont va bénéficier Marseille. Tout a été conçu pour produire de belles images et pour mettre en valeur la deuxième ville de France. À 8h30 jeudi matin, la flamme partira de Notre-Dame-de-la-Garde. C'est le sommet de Marseille, la basilique qui veille sur la ville. La flamme passera ensuite par la base nautique de Roucas-Blanc, là où auront lieu les épreuves de voile pendant les Jeux. Elle repassera ensuite au Vieux-Port, puis au parc de Fontobscure, d'où on a une magnifique vue sur la rade. Elle ira ensuite au palais Longchamp, au parc de la Moline. Tous ces lieux connus des Marseillais, mais seulement des Marseillais, et qui vont donc obtenir jeudi un sacré coup de projecteur. Et d'après vous, où se terminera ce périple ?
Au Vélodrome !
Évidemment, au stade Vélodrome, bien sûr, l'antre de l'OM. Ensuite, à partir de vendredi, la flamme commencera son Tour de France jusqu'au 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture. Mais on retiendra tous que tout a commencé à Marseille, que les Jeux de Paris, en fait, auront commencé à Marseille. Géraldine Domory et Peggy m'ont dit qu'il devrait faire beau.
Ah,
après une période agitée avec de la pluie et du vent, le soleil devrait arriver à Marseille exactement en même temps que la flamme.
Vous confirmez, Peggy?
Oui,
c'est sûr.
Je confirme, soleil et en plus douceur, donc ce sera très bien.
Eh ben, ça va sentir bon avec toutes les poubelles dans les rues. grève des éboueurs aussi. À l'occasion de l'arrivée de cette flamme, on y reviendra à la une du journal de 8h. Mais d'abord, c'est dans 5 minutes 8h. De quoi allons-nous parler? Restez là.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
De Snoop Dogg, Peggy, qui est donc bientôt bilingue.
Exactement. Le rappeur américain couvrira les Jeux Olympiques ou reste dans la thématique. Ce sera pour la chaîne NBC. Alors forcément, comme ça se passe en France, Snoop Dogg a décidé de se mettre au français, de prendre des cours, ou en tout cas au moins apprendre quelques mots. Et il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on le voit apprendre le français avec sa petite fille, Cordoba. C'est trop mignon, écoutez.
I wanted to get some lessons on French, so I went out and hired me a French teacher. How do I say Eiffel Tower? Tour Eiffel? Paris, France, bonjour.
Je vous invite à aller voir la vidéo, elle dure une minute. Le décor est tout rose fuchsia, il est habillé en rose avec sa petite fille, ils sont à table. Il y a tout un goûter avec plein de gourmandises, des bonbons roses, c'est plein de tendresse. Et Snoop Dogg avait déjà mis une vidéo en ligne sur les réseaux, c'était fin 2023, pour dire justement qu'il allait couvrir les JO. Une vidéo dans laquelle on le voit faire quelques passes de volleyball. Et la légende du hip-hop partira donc pour NBC à la découverte des monuments historiques de Paris. Il assistera aux compétitions, il rendra visite aux athlètes et aux proches. En tout cas, on attend Snoop Dogg à Paris.
How do you say goodbye?
Au revoir.
Au revoir.
Bon, le au revoir est encore à travailler pour Cordoba, sa petite fille, mais c'est un bon début.
Bah, puis ça promet d'autres belles vidéos. Hein. Snoop Dogg qui interroge les athlètes, je veux voir ça. D'un côté, ça me rassure, son français est aussi bon que mon anglais.
Oui, voilà.
Donc, comme quoi, hein,
on est
pas si nul.
On va dire ça, voilà. Oui, bien sûr.
Ça rassure. Vous avez le droit le dimanche que matin. Restez bien sur RMC, donc dans quelques instants, vos infos de 8h, c'est promis.
La matinale week-end.